Rosh Hashanah, être à la tête et pas à la queue. Lorsque l'on approche des trois fêtes juives que sont Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on sait que l'on s'engage dans un périple qui tient du marathon spirituel et physique. Rosh Hashanah est la première étape, elle marque la nouvelle année juive qui cette année sera l'an 5784. Rosh Hashanah, textuellement la tête de l'année, est célébrée de manière assez généralisée par les communautés juives du monde. Cela va de la simple interpellation « Shana Tova, bonne année » au trempage de la pomme dans le miel, jusqu'à la liturgie, les prières et toutes les traditions qui accompagnent cette fête si importante. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur les différentes étapes, traditions et cultes, ce podcast est pour vous. Le jour de Rosh Hashanah est le jour du renouvellement par excellence. On va donc faire un reset sur vos connaissances. Rosh Hashanah dure 2 jours et il y a 2 sédarim, cérémonies qui ont lieu avant les repas du soir. Que l'on habite en Israël ou partout dans le monde, le juif est logé à la même enseigne. 2 jours de Yom Tov, 2 jours fériés, les 2 premiers jours du mois de Tishrei. Cette année, Rosh Hashanah tombe le vendredi 15 septembre au soir et se termine le dimanche 17 septembre à la tombée de la nuit. Bien sûr, les horaires de la tombée de la nuit changent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, d'un hémisphère à l'autre. Pour faire simple, regardez le ciel. Dès que vous apercevez 3 étoiles, la fête est finie. Manque de peau, cette année, cela tombe à Shabbat, donc pas de jour férié supplémentaire. Cette fête est inscrite dans la Torah. Fête où nous avons l'obligation non pas de dire « bonne année » à tout le monde, mais de cesser toute activité et d'entendre le shofar sonner. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le shofar, quelle est l'origine de cet instrument bizarre, je vous invite à lire l'article à ce sujet sur notre site « Le shofar, un son juif ». Alors bien sûr, Rosh Hashanah est un jour où la famille juive se retrouve et déguste avec plaisir de nombreux mets traditionnels. Mais c'est avant tout un jour solennel où Dieu va juger chaque membre de son peuple selon ses actes. Un jour de crainte et d'appréhension. Un jour où il est encore temps de faire teshuvah, de revenir sur ses actions passées et d'écrire une nouvelle page de notre vie conformément aux mitzvot qui nous incombent. Il y a 3 manières d'améliorer notre tableau de notes, de récupérer des points pour le jour du jugement. Par la repentance, un mot qui fait froid dans le dos. Aujourd'hui, on dirait plutôt en faisant un cheshbon nefesh, le bilan de notre conscience, passer en revue tout ce que l'on a sur la conscience de nos actes ratés, manqués, nos erreurs, nos transgressions volontaires, et de reconnaître que l'on a mal agi, soit envers soi-même, soit envers son prochain, mais aussi envers Dieu. Il n'y a que de cette façon que l'on peut, avec conscience, réparer nos torts et surtout ne plus recommencer. À ce sujet, je vous propose de lire l'article sur les 2 visages de la Teshuvah, celui de Rosh Hashanah et celui de Kippour, sur notre site. En fait, en prenant conscience de nos erreurs, on s'offre la possibilité d'effacer une espèce d'automatisme, une mauvaise habitude, et là, le vrai travail sur soi commence. Il y a plusieurs moyens de demander pardon et d'effacer ses fautes. Tout d'abord, participer aux slichot, ces incantations collectives qui ont lieu la nuit dès le premier jour du mois de Elul dans les synagogues et surtout au Kotel à Jérusalem. Ces chants où l'on invoque la clémence de Dieu ont marqué nos communautés et font partie du répertoire de la liturgie juive. Je vous invite à lire l'article sur les slichot, des chants millénaires sur notre site. Le second moyen d'effacer ses fautes a lieu durant le 2nd jour de Rosh Hashanah au cours d'une petite cérémonie au symbolisme très puissant. Il s'agit de tachlir, qui veut dire « jeter au loin ». Les Juifs se dirigent vers un point d'eau, la mer, un ruisseau, un bassin, un fleuve, et lisent un passage du livre du prophète Michée. La mystique juive enseigne que l'eau correspond à l'attribut divin de bonté. Le jour de Rosh Hashanah, nous supplions Dieu de nous traiter avec bonté au jour du jugement. Le 3e moyen, c'est la prière. Implorer Dieu de tout son cœur, en toute sincérité, d'être inscrit dans le livre de la vie, ainsi que tous ceux que l'on aime. C'est grâce à la prophétesse Hana que nous avons appris à prier avec Kavana, avec une intention dirigée. Si vous lisez les explications dans l'article sur Hana, vous comprendrez que la prière du cœur est celle qui est entendue. Le 3e moyen est de faire la tzedaka, que l'on traduit mal par faire la charité. En fait, c'est bien plus profond que cela. On participe par le don financier envers ceux qui en ont le plus besoin au principe de justice dans le monde en tentant de rétablir un équilibre social. Et puis, il faut demander pardon à autrui, à nos proches, ceux que l'on aurait blessés volontairement ou pas. On demande Slicha et Mechila. D'ailleurs, quelle est la différence entre ces deux mots? Pour le comprendre, allez lire l'article sur le pardon dans notre site. Donc, pendant Rosh Hashanah, il y a les obligations dont on doit s'acquitter avec joie et les traditions qui se distinguent d'une communauté à l'autre. Donc, on va à la synagogue, on prie, on écoute sonner le shofar et on lit des portions de la Torah et le livre des prophètes. L'une des mitzvahs les plus importantes ce jour-là n'est pas de manger des beignets au miel, mais d'écouter le son du shofar, le souffle de la corne de bélier. Il y a plusieurs sons que l'officiant doit faire en soufflant, sons qui ont tous une signification ésotérique, importante. La corne de bélier fait, elle, allusion à la ligature d'Itsrak par son père Avraham, qui était prêt à sacrifier son fils sur ordre de Dieu, et qui substitua à la dernière seconde un bélier sur l'autel. On va lire à la synagogue d'ailleurs ce récit qui nous rappelle la grande bienveillance de Dieu. Si Avraham avait vraiment sacrifié son fils sur l'autel, le cours de l'humanité en aurait été certainement transformé. Le céder de Rosh Hashanah. Le plateau est posé sur la belle table remplie de mets et de miel. Après le kiddush spécial de ce soir-là, le chef de famille fait faire de nombreuses bénédictions allusives sur chacun des aliments du plateau. On y retrouve des dattes, des grenades, de la pomme, du miel, de l'ail, des sésames, des épinards ou des blettes, de la courge et de la tête de mouton, parfois de poisson. Les légumes peuvent être différents selon les communautés ainsi que leur préparation, mais je ne connais que le plateau du céder de ma famille où tous ces légumes sont préparés sous forme de beignets trempés dans le miel. À part le goût extraordinaire de ces beignets dont on ne se lasse pas, nous devons dire chacun des bénédictions appropriées qui commencent par le Yehi Ratzon, que cela soit selon ta volonté. Une manière d'accepter intégralement la volonté de Dieu dans nos vies. Alors les fruits et les légumes sont présents, et le miel qui est le fruit de l'abeille, mais pourquoi la tête de mouton qui dégoûte souvent les enfants et les convives? Parce qu'il y a cette bénédiction qu'il ne faut certainement pas bâcler et qui dit « Qu'il te soit agréable, Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, de nous placer à la tête et non à la queue. Et souviens-toi en notre faveur du bélier de notre patriarche Yitzhak. » Encore une fois, cet épisode fondamental du récit biblique revient s'inviter dans notre céder avec cette symbolique si forte pour nous rappeler combien Dieu est clément et miséricordieux. Sur ces mots, doux comme le miel, je vous souhaite à tous et au nom de toute l'équipe de Yedia une bonne et douce année, Shana Tova ou Metuka, et que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie. Il y a bien sûr d'autres articles à découvrir ce mois-ci dans notre site, je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Bashana, bashana.